J'ai eu à cœur de vous partager une réflexion. Alors, je me suis inspiré de deux auteurs essentiellement pour ça, et bien sûr de la Bible et puis du Seigneur qui m'a un peu guidé. Donc, Pascal Portoukalian, qui est un Arménien qui a été directeur de Sephora un bon moment et puis qui est maintenant en Arménie, et aussi la responsable très longtemps du Passe le mot sur le top chrétien, Lisa Giordanella. Voilà. Et autrement, le reste. Alors, un passage bien connu que vous beaucoup connaissez, bien souvent, on se dit encore la tempête, c'est un des commentaires que j'ai eu, mais je ne vais pas vous parler essentiellement de tempête. Vous voyez peut-être ce que je vais vous dire, c'est en Luc 8, versets 22 à 25. Luc 8, versets 22 à 25, je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Nous retrouvons cet événement dans deux autres évangiles, en Matthieu 8, les versets 18 à 28, et en Marc 4, versets 35 à 41. Quatre petits versets qui racontent une histoire hyper puissante. Bien souvent, ce petit paragraphe est appelé « la tempête apaisée ». Regardons d'un peu plus près ce passage. Au moment où Jésus dit à ses disciples « passons de l'autre côté du lac », il est celui qui prend le commandement. C'est lui qui décide de la direction où aller. Les disciples ne contestent pas, ils obéissent, ne posent pas de questions. Jésus est le patron, ils le suivent. Même si le bateau n'est pas strictement sa propriété, il en devient de fait le capitaine. Pour ma part, je vois là un premier enseignement. Suis-je prêt à suivre Jésus aveuglément ? Est-ce que toutes les fois où il m'a dit, dans un passage à la lecture de la parole, ou par l'intermédiaire d'un ami, d'un frère, lors d'une parole avisée, est-ce que toutes les fois je l'ai écouté, l'ai-je seulement discerné ? Loin de moi l'intention d'affirmer une telle chose. Dans la majorité des décisions que j'ai prises pour ma vie, je n'en ai fait qu'à ma tête. Je suis monté dans ma barque. Mais le Seigneur est bon et ne m'en a pas tenu rigueur. Comme il ne vous en tient pas rigueur, il connaît nos faiblesses et notre rébellion. Revenons à notre passage d'aujourd'hui. Vint alors une tempête. Ce n'est pas une petite brise, c'est une vraie tempête. Le texte dit même qu'ils sont en danger. Danger de quoi ? De se retourner et donc de mourir ? Pourtant, ils sont avec Jésus. Ils l'avaient vu accomplir de nombreux miracles. N'est-ce pas lui qui venait de dire dans le chapitre précédent aux disciples de Jean : « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 7, verset 22. Malgré tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus au préalable, ils ont peur. Je pense que j'aurais été tout comme eux. Je n'aurais pas su voir que Jésus, lui, dormait paisiblement. J'aurais craint pour ma misérable vie et j'aurais été pris de panique, tout comme eux. Mais alors, on peut donc être en danger tout en suivant Jésus ? On peut risquer la mort tout en étant dans sa volonté ? N'oublions pas, comme nous l'avons vu au début, que c'est Jésus qui a donné l'ordre de traverser. C'est Jésus qui a pris le commandement de la barque. La réponse est oui. Suivre Jésus peut être risqué. Nous pouvons être en danger, mais à la fin, il y a la victoire. Prenons quelques passages de l'Écriture qui nous montrent que Jésus nous a mis en garde. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, verset 16. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu 10, verset 22 à 23. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Il n'y a aucun doute. Jésus ne nous a pas promis un long chemin tranquille, jalonné de douceur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Jésus dort. Les disciples ont peur, ils flippent, tout comme j'aurais flippé. Il le réveille, tout comme je l'aurais certainement fait, même plus que probablement fait. Jésus dort. Mais pourquoi dort-il? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi Jésus dort? Lisa Giordanella, dont je vous ai cité, nous propose cette approche. Probablement Jésus était-il fatigué de sa journée après avoir enseigné, guéri les foules. Aussi s'était-il endormi sur son coussin, paisible au creux de la barque. Il n'était pas le moins du monde inquiété ni dérangé par les foules, l'eau tumultueuse. Cela devrait nous faire réfléchir à notre propre barque, bien souvent bousculée par les orages. Parfois, nous traversons des lacs miroitants de mer d'huile, et soudain, une tempête se lève, menaçante, susceptible de nous renverser. Où se trouve Jésus? Dans la barque. C'est déjà une très bonne nouvelle. Mais pourquoi dort-il? En dehors des raisons invoquées ci-dessus, il en existe peut-être d'autres qui n'ont rien à voir avec les conditions de Jésus, mais avec nous. S'il dort, cela vient-il de nous? Mais pourquoi Jésus finit-il par s'assoupir parfois dans nos vies? Parce que nous ne lui parlons pas, ou si peu? Parce que nous sommes sans aucun doute très occupés ou préoccupés? Parce qu'on n'ose pas le déranger? Parce qu'on ne cherche pas tous les moyens, pardon, parce qu'on cherche par tous les moyens à se débrouiller tout seul? Nous savons très bien en réalité, Jésus ne dort jamais. Il veille, même endormi, entre guillemets. Jésus n'est pas absent, il est toujours là, dans notre barque. Dans le tumulte ou le chaos de nos vies, il n'attend qu'un seul geste de notre part, qu'on le réveille. Hé, Jésus, tu dors? Cette phrase, je l'ai déjà entendue, mais dans l'autre sens, et cela m'a réveillé. Hé, Pierrot, tu dors? Ben plus maintenant, pourquoi? Hein, combien de fois elle t'a secoué, Pierrot, pour te demander si tu dormais? Quand nous avons besoin d'aide, parce que l'eau monte dangereusement. N'attendons pas le dernier moment pour réveiller Jésus, quelle que soit notre difficulté. Difficulté familiale, nos enfants nous échappent, ils ne nous écoutent plus. Ils n'en font qu'à leur tête et les éclairs traversent nos repas avec des grondements de voix. Difficulté conjugale, notre couple traverse des creux de 10 mètres. Financière, chômage partiel, impôts à payer et plein de choses. Relationnelle, nous ne nous entendons plus avec nos collègues. Les crasses et les critiques s'abattent comme des pluies torrentielles. Physique, notre santé est atteinte. Notre horizon s'est assombri depuis que nous sommes malades, vieillissants. Notre corps, notre âme sont déchirés par la douleur. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par tout cela, et si tel est le cas, gloire à Dieu. Mais si nous sommes dans l'une ou l'autre de ces situations, alors, lâchons seau et balai, écopez l'eau qui monte ne sert plus à rien. Il est urgent de réveiller Jésus. C'est très bien également de chercher d'autres solutions. Pourquoi pas auprès des hommes ? Seulement, parfois, c'est insuffisant. « Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire » en Jean 15, 5. Ou encore, « Le secours de l'homme n'est qu'illusion » au psaume 60, verset 13. « Car Jésus désire tant qu'on le réveille. » N'attendez pas de couler pour réveiller Jésus. Nous sentons que la situation nous échappe, que nous ne parvenons plus à contrôler le gouvernail dans les eaux furieuses, agitées. Réveillons Jésus. Nous avons pris conscience que nos tentatives de sauvetage sont vaines ou insuffisantes. Réveillons Jésus. Notre vie prend l'eau de partout. Nous sommes sur le point de sombrer. Réveillons Jésus. Souvenons-nous qu'à n'importe quel moment, nous pouvons déranger Jésus. Il est toujours présent, prêt à ramener le calme dans notre vie afin que nous puissions naviguer dans des eaux paisibles. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. C'est le passage parallèle en Marc 4, 39. Trois mots de Jésus, cela suffit et l'orage s'enfuit. Le retour du soleil et le bleu du ciel feront renaître le sourire sur notre visage. Cette paix qui dépasse notre compréhension descend aussi soudainement que la tempête disparaît. Ordonnons par le nom de Jésus à nos tempêtes de tomber. Ne veut-il pas que nous vivions chacun dans la paix, dans son repos ? Ne laissons pas les circonstances de notre vie endormir Jésus dans notre vie. N'attendons pas que notre situation empire. N'attendons pas de couler pour crier à Dieu. Nous avons toujours en lui un puissant secours. Nous l'appelons en dernier recours parfois, alors qu'il devait être le premier. Revenons à notre texte. Les disciples ont peur. Il réveille Jésus qui ordonne à la tempête de se calmer et l'obéit. Ça dit quoi, ça ? Trois mots. Notre texte ne s'arrête pas là. Jésus aurait pu dire aux disciples, « Ouf, vous avez raison de nous réveiller, car on a eu chaud, on aurait pu tous y passer. » Non, Jésus ne leur dit pas ça. Il leur dit quoi ? Où est votre foi ? Il ne leur dit pas pourquoi avez-vous paniqué ? Pourquoi avez-vous eu peur ? Non, Jésus connaît ses disciples comme il nous connaît parfaitement. Il ne nous reproche pas nos peurs. C'est normal d'avoir peur. Personne ou presque n'est capable de siffloter en voyant la mort arriver. Et ce n'est pas ce que Jésus demande. Mais ce qu'il attend de nous quand on a peur, c'est de mettre notre foi en action. Et il le montre aux disciples, avec lui, dans la barque, comme il nous le montre aujourd'hui. Mettre notre foi en action, c'est c'est ordonner aux éléments de se calmer. Ce n'est pas toujours tout rose, les traversées avec Jésus. Ce n'est pas toujours facile d'embarquer dans le bateau de Jésus. Effectivement. Comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, il y a des moments où cela va nous coûter, où les éléments vont se déchaîner. Ça peut nous coûter des relations, ça peut nous coûter nos finances, ça peut nous coûter des tracasseries sans nom. Nous pouvons être persécutés, comme malheureusement ça se passe dans de nombreux pays. Nous pouvons être bannis et obligés de fuir. Nous pouvons être rejetés par notre famille. Mais Jésus nous dit, mets en action ta foi et ordonne à ces éléments qui veulent t'engloutir de se calmer. Mettre notre foi en action, c'est quoi au juste? Est-ce simplement ordonner à la tempête que nous traversons de se calmer? Un aspect important de mettre notre foi en action est de vivre selon les commandements de Dieu. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 14, 15. Cela implique de chercher constamment une vie droite et intègre, en évitant le péché et en cherchant à faire la volonté de Dieu dans toutes nos actions. La Bible nous encourage à être des témoins de notre foi en Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc 16, 15. Cela signifie que nous devons partager notre foi avec les autres en leur parlant de l'amour de Dieu et de la grâce de Jésus-Christ. Bien sûr, mettre sa foi en action, c'est prier régulièrement. La Bible nous dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui demander sa direction et sa sagesse dans notre vie quotidienne. Mettre notre foi en action n'est donc pas une recommandation à monter dans notre propre barque ou bateau. Et quand nous avons besoin, quand nous traversons une tempête, quand les éléments de la vie se déchaînent contre nous, se rappeler que nous avons mis notre foi en Jésus et l'appeler pour qu'il vienne nous secourir. N'oublions pas que Jésus nous a invités à monter dans sa barque et que de ce fait, c'est lui le patron. Cette invitation à monter dans son bateau, dans sa barque, il l'a faite à chacun de ses disciples, il te l'a fait, il me l'a fait. Dans notre quotidien, combien de fois nous laissons notre nombril un tantinet rebelle, notre besoin chronique d'indépendance qui nous pousse à descendre du bateau de Jésus et remonter dans le nôtre, n'en faisant qu'à notre tête, suivant notre pseudo-instinct, pensant que nous n'allons pas l'embêter avec nos futilités, que nous allons pouvoir nous débrouiller tout seuls. Et bien sûr, quand ça ne va plus, vite, vite, on fait appel à Jésus. Dans le passage parallèle à notre texte de Luc, nous pouvons lire en Matthieu 8, verset 18, « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. » C'est donc Jésus qui décide de la direction et qui donne l'ordre de passer à l'autre bord. Plus loin dans notre lecture, au verset 23, nous voyons que c'est lui qui monte en premier et les disciples le suivent. Il monte dans la barque et ses disciples le suivent. Jésus avait pris possession du bateau et plutôt que de te faire embarquer dans ton bateau, il te dit d'embarquer dans le sien. Et si tu es dans son bateau, alors tu as cette autorité de dire stop en son nom. À ces choses qui se déchaînent contre toi. Mais ça commence par cette première étape. Embarquer dans son bateau, plutôt que de l'embarquer dans le tien et gérer et galérer plus que tu ne le devrais. Alors, prêt à embarquer dans la barque de Jésus ? Ou dans la tienne. Que nous puissions suivre Jésus dans sa barque, c'est ma prière pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.